Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je veux partager un message simple avec vous. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours travaillé depuis des années et qui m'a interpellé, je pense, j'avais deux ans de conversion environ. Jésus dit, si ton œil est simple, alors tout ton corps est dans la lumière. Mais par contre, si ta lumière est ténèbre, combien sont grandes tes ténèbres? Et pourquoi je vous dis ça? Comment Dieu m'a interpellé à moi? Je me souviens. Lorsque je me suis converti, j'ai reçu une vérité. Cette vérité est Dieu guérit. Simple comme vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. Et à force de connaître des choses de la parole de Dieu, à force d'avoir entendu des messages, à force d'avoir grandi dans ma vie chrétienne, j'étais plus capable d'accepter cette simple vérité. J'étais à un moment donné dans ma vie où je croyais que Dieu guérissait, sauf si Dieu veut te rendre malade pour t'apprendre une leçon, sauf si l'ennemi te combat et qu'il a un droit sur ta vie, sauf si, et en fait il y avait tellement des sauf si, que le principe n'avait plus de puissance dans ma vie. Et j'ai lu ce verset, si ta foi, si ton œil est simple, et j'ai dit Seigneur, réapprends-moi à être simple, je veux être simple. Merci Jésus pour les merveilleux messages de Romaric Ganga. Merci Jésus pour Amen. Tous les prédicateurs de la terre entière. Amen. Merci pour mon intelligence qui me donne accès à des niveaux de gloire ultime. Mais la gloire ultime, c'est ta parole. Et je prie que ta parole renverse mes raisonnements cet après-midi. Je déclare qu'il y a une seule réalité, c'est ta parole. Je déclare que mes réflexions sont en deçà de ta parole. Que mon expérience, que mes années de marche avec toi sont en deçà de la vérité de ta parole. Il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul oui et amen. Qu'une seule chose qui est et qui sera, c'est ta parole. Elle est oui et amen. C'est tout. Et je veux juste nous encourager cet après-midi à retrouver la clé de la foi. La foi, la Bible dit que elle est en fait, elle est partout présente dans la Bible. Vous savez, il y a quelques semaines, en fait, ça fait un mois que vraiment la foi, ça me travaille. Parce que je lisais un texte et je l'ai partagé avec ceux qui étaient avec nous à la prière, je pense, il y a un mois, le vendredi matin. Mais dans Jean chapitre 16, Jésus dit une chose incroyable. Il dit, il prie le Père, il dit, Père, je te rends grâce de ce que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Et je lisais ce verset comme des fois, vous l'avez lu des dizaines de fois, et là, ça m'a frappé. Jésus dit, je te rends grâce de ce que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Moi, souvent, je pensais à la fin, sauf le fils de la perdition. Mais non, l'important, c'est ce que Jésus dit avant. Jésus prie, Père, je te rends grâce de ce que moi, Jésus, je ne perds aucun de ceux que tu me donnes. Et là, c'est devenu une évidence. Jésus ne perd jamais rien. Les amis, Jésus ne perd jamais rien. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je lui ai donné ma vie est entre ses mains. Jésus ne perd jamais rien. Dis à ton voisin, Jésus ne te perdra pas.
Jésus ne te perdra pas.
Jésus ne perd jamais rien. Dieu, je marche avec Dieu et Jésus me donne des promesses. Est-ce que vous avez déjà reçu une promesse de la part de Dieu? Un verset, une promesse. Eh bien, je veux te dire quelque chose. Jésus ne perd jamais rien. Et en fait, je lisais ce verset et j'ai dit, mais Seigneur, mais si en fait je comprends ce verset, je suis invincible. Mes prières deviennent des prières de dingue. Dis à la personne à côté de toi, il est temps que tu aies des prières de dingue.
Il est temps que tu aies des prières de dingue.
Parce que...
Il est temps que tu aies des prières de dingue.
Il y en a qui en font déjà. Mais... Tu ne perds jamais rien, Seigneur. Tout ce qui est entre tes mains est scellé. Tout ce qui est entre tes mains, c'est oui et amen. Je disais à ceux qui étaient connectés, parce que ça m'a touché. Jésus dit, je ne perds aucun de ceux que tu m'as donné. Et pourtant, quelques heures après, quelques semaines après, Pierre renie Jésus. Si on avait interrogé, même nous en tant qu'église, on se serait dit quoi? On se serait dit, ah, Pierre, il vient plus à l'église. Pierre, il est perdu. Pierre, il est rétrograde. Pierre, on fait des chaînes de prières pour Pierre. Pierre, il est retourné à son ancienne vie. Pauvre Pierre, on le juge un peu parce qu'on est chrétien en plus. Mais Jésus, avant, il dit, je ne perds jamais personne. Même dans les saisons les plus noires de sa vie, Pierre n'était pas perdu. Et je veux te dire, la seule et unique réalité dans ta vie, c'est que Jésus t'a dans sa main et personne ne t'enlèvera de sa main. Même dans les saisons les plus noires de ta vie, tu appartiens à Christ. Et ça, ça change tout. Parce que quand je suis au fond du trou, comme ça nous arrive à tous, et que j'ai du mal à prier, mais que cette vérité imprègne mon esprit, je peux me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je suis à l'ouest, mais je t'appartiens quand même. Oui, c'est pas moi qui garantis mes promesses, c'est Dieu qui garantit ses promesses. C'est pas moi qui dis oui et amen. C'est lui qui dit oui et amen. Il est le juste et le véritable, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui garantit sa parole. Dis à la personne à côté de toi, tu as le droit d'être heureux. La foi, c'est quelque chose de simple. On va lire un texte ensemble, si vous voulez bien. On va lire dans Luc au chapitre 8, le texte va s'afficher. Vous connaissez pour beaucoup ce texte. Si vous ne connaissez pas, on va le découvrir ensemble. Et Jésus dit, Jésus leur adressa une parabole. Voici une parabole de Jésus pour nous. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Ne tardera-t-il pas à leur égard ? Je vous le dis, il va leur faire promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra-t-il ? Trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Moi, j'ai entendu plein de messages sur ce texte-là où le but était de dire « Ah, ce monde est sans foi. Ah, la foi devient rare. Ah, la... » Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. En fait, il y a deux fois dans la Bible. Il y a deux types de foi. Il y a la foi pour être sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus, je crois qu'il est mort pour moi, je suis sauvé. Ça, c'est la foi qui t'amène au salut. Mais il y a aussi la foi qui obtient. La foi qui fait que la Bible que tu as, que tu lis, devient une réalité dans ta vie. La foi qui fait que le bras de Dieu devient visible et palpable. C'est de cette foi-là que Jésus parle. Et c'est de cette foi-là qu'il dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais la trouver ? Pourquoi Jésus dit ça ? Parce que, et on va le voir ensemble, parce qu'il nous en a fait cadeau, elle est en nous. Dis à la personne à côté de toi, tu as la foi cachée en toi. Elle est là, elle est présente. Et Jésus parle de cette foi qui obtient. Il va même plus loin, Jésus parle d'une foi qui obtient la justice, même venant d'un juge qui est inique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si une promesse est bloquée par l'ennemi, même si une réalisation est bloquée par l'ennemi, l'ennemi ne peut pas retenir ce que Dieu a prévu de te donner à partir du moment où tu actives ta foi. La foi lui arrache les promesses des mains.
Amen. Amen.
La foi lui donne un coup de pied et ouvre la porte Amen. Qui était fermée. C'est ça la foi. Amen. C'est de cette foi-là que Jésus parle. Une foi qui fait que parce que tu crois, tu changes le système. De quoi je parle ? Celui qui croit, ce n'est pas le système de ses circonstances, le système de ce que ses yeux voient, le système des principes élémentaires de ce monde qui est en jeu. Celui qui croit, il amène le règne de Dieu sur sa vie. Et à partir de là, c'est plus les mêmes lois qui gouvernent. C'est les principes du royaume de Dieu. C'est le oui et le amen. C'est le tout est possible à celui qui croit. Ce sont des nouvelles règles. Les amis, je prie que nous puissions changer de royaume. Parce que je suis un citoyen du ciel sur la terre. Mais à force d'être un citoyen du ciel sur la terre, je me mets à vivre seulement selon la terre. Je dois apprendre à vivre en tant que citoyen du ciel. Seigneur, oui, il y a des principes dans ce monde. Oui, quand il pleut, je suis mouillé. Mais je crois que ce que tu dis est supérieur à la réalité de ce monde. Ce sont les principes de ton royaume que je veux. Une foi simple. Vous savez, on parle beau. Si je devais faire le compte, et même moi, je réfléchissais à tous les messages que je prêche. Et je me dis, mais souvent on prêche sur la prière, souvent on prêche sur le jeûne, on prêche sur le combat spirituel. Mais en fait, toutes ces choses n'ont aucun sens sans la foi. Jésus, lorsqu'il enseigne sur la prière, regardez ça. C'était pas prévu que je vous en parle, mais je vous en parle quand même. Matthieu chapitre 7, Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton père qui est là dans le lieu secret. Jésus dit, parfois nous, comment dire ça? Notre manque de foi nous pousse à mettre beaucoup de paroles pour essayer de convaincre Dieu. Mais Jésus dit, une seule parole de foi change toute chose. Moi, je prie ce que Paul a prié. Père, je ne veux pas juste prier pour prier. Je ne veux pas me battre comme battre en l'air, mais je veux donner des coups précis. Je veux prier pour des choses et voir l'accomplissement dans ma vie. C'est ce que je désire pour nous cet après-midi, pour nous tous. Un grain de foi a plus de puissance que beaucoup de prières. Un grain de foi bouge des montagnes. On l'a entendu, Pasteur Romaric en a parlé, tout le moment de chant, Fabien a pris la parole sur ça. Mais vous connaissez ce texte, Matthieu 17, verset 20. Celui-là, il est incroyable. Est-ce que des fois, vous êtes excité quand vous lisez des versets bibliques ou vous faites toujours la tête? Matthieu 17, 20. « C'est à cause de votre incrédulité, oh, dit Jésus. Je vous le dis en vérité. En vérité, mon frère. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. T'imagines ce que Jésus dit de toi? Rien ne t'est impossible quand tu as la foi. Voici, je vais te dire une chose. Pourquoi Jésus parle d'une montagne? Parce qu'il y aura toujours une montagne entre ton aujourd'hui et ton demain. Il y aura toujours une montagne entre toi maintenant et la promesse que Dieu veut te donner. Il y aura toujours une montagne pour la conversion de tes enfants, de ton mari ou de ton épouse. Il y aura toujours une montagne entre la porte que Dieu veut ouvrir et ta réalité aujourd'hui. Mais si tu as la foi, tu es capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, va dans la mer et elle t'obéira. Et tu vois la promesse devenir réalité, tu vois ta famille venir à Christ, tu vois la bénédiction prendre place. Il y aura toujours une montagne, ne te plains pas de la montagne. La question n'est pas la montagne. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Quand j'arrive à voir le Dieu qui règne, la montagne n'est plus un problème. Maintenant, voici la clé. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, montre-moi ta foi. Il y a quelqu'un ici qui a un grain de moutarde? Personne? Il n'y a que moi. Ah, on est deux, trois. Un grain de moutarde. C'est une poussière, c'est rien. C'est pas une question d'avoir une grande foi, pas grande foi. Prier beaucoup, pas beaucoup. Connaître plein de versets ou pas. Tu peux être imparfait, tu peux être un débutant, tu peux être un ancien, un aguerri, qu'importe. Mais la foi comme un grain de moutarde. C'est pas beaucoup, ça ressemble pas à grand chose, ça a l'air insuffisant. Mais Jésus dit ça, c'est suffisant. Ça là, le grain de moutarde, c'est le point de contact entre le ciel et la terre. C'est le point de contact entre la bénédiction que Dieu veut te donner et celle que tu vas vraiment recevoir. Je crois que Dieu veut dire à son Église, où sont les grains de moutarde?
Amen.
La porte qui permet à Dieu d'agir. Dans la parole de Dieu, par exemple, on voit dans le Nouveau Testament 55 versets sur la foi et il y en a seulement 13 sur le combat spirituel. Nous, on croit qu'on doit passer notre temps à combattre. Mais si tu passes ton temps à combattre, peut-être parce que Jésus a passé combattu alors. Non? La foi, elle t'évite bien des combats. On va en parler tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'appelle le bouclier de la foi. La Bible dit que ça éteint tous les traits enflammés du malin. Parfois, tu as beaucoup de combats spirituels parce que tu n'actives pas ta foi. Le diable, il redoute ça. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup dans le doute. Il veut nous amener à regarder la terre, à notre réalité, aux circonstances de nos vies. La foi, c'est la clé que Dieu veut nous donner. En fait, il nous l'a déjà donnée, mais juste qu'on la réactive cet après-midi. Alors, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, 1, je lis dans la version Parole vivante pour vous. J'aime comment la Parole vivante traduit ce fameux verset d'Hébreux 11, 1. Alors, qu'est-ce que la foi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est être absolument certain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que croire en Dieu, c'est bien. Mais croire Dieu, c'est mieux. Croire en Dieu, c'est le début. Là, tu commences, tu viens au salut. Ah, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Mais maintenant, je passe une autre étape. Je crois ce que tu dis. Je crois ce que tu dis sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, sur ma ville, sur mon pays. Je crois ce que tu dis sur ma réalité. La foi, c'est une ferme confiance, une manière de posséder par avance. En gros, la foi, c'est la réalité dans laquelle je crois. Je répète ça. La foi, c'est la réalité dans laquelle je crois. Je crois que je suis assis sur une chaise. J'ai la foi. Ça ne me vient jamais à l'idée de me dire « elle va tomber pendant le culte ». Peut-être que vous êtes comme ça. Ça, c'est être hypochondriaque, c'est un autre truc. Mais ça ne me vient jamais à l'idée, j'ai la foi. Eh bien, la réalité dans laquelle tu es va déterminer toutes tes actions, toutes tes paroles. La raison pour laquelle je n'ai pas pris de parapluie, c'est parce qu'il ne pleut pas. Ma réalité est sans pluie, je ne prends pas de parapluie. Ma réalité définit tout. Elle définit la manière de m'habiller, les paroles que je vais dire, ce que je vais entreprendre. La réalité de mon compte en banque définit là où je vais aller en vacances, par exemple. Non, pas vous. Bien, la foi dit, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est la réalité dans laquelle tu évolues. La foi, c'est la réalité de Dieu qui devient ta réalité. La foi, c'est la parole de Dieu. Vous savez, Apocalypse 3, il est dit ceci à l'église de Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ha! Je vais lire exactement ce verset parce qu'il est trop fort. Ô Jésus. Je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Alors j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette église? Ta réalité, tu n'as pas arrêté parce que tu as remarqué que tu avais peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ta réalité est restée malgré tout ma parole. Alors voici ce que je fais pour toi. Je ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Église de Philadelphie, tu n'as pas accepté ta réalité comme étant l'endroit dans lequel tu évolues. Tu as choisi de passer au-delà et de t'inscrire dans ma réalité. C'est ça que Jésus est en train de dire. Alors juste une chose que j'aimerais tacler dans le nom de Jésus. La foi n'est pas sentimentale. Frères et sœurs, je crois que nous avons une chance incroyable, c'est que nous sommes le peuple de l'Esprit. J'aime le Saint-Esprit.
Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Si on est 2, 3, 4, 5, dis à la personne à côté de toi, il serait temps que tu commences à aimer le Saint-Esprit. Maintenant, les amis, attention. À force de dire « je ressens, je sens, j'ai à cœur », on devient que des chrétiens émotionnels. Et je veux vous le dire, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli d'émotions. Si le fait d'être rempli du Saint-Esprit te pousse à avoir une foi qui est circonstancielle, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Oui, on peut ressentir, allez, on peut ressentir, mais il y a tellement de mensonges que l'ennemi a mis dans cette doctrine de l'Esprit. La Bible, il n'y a aucun endroit où il est dit que l'apôtre Paul a senti. Je n'ai aucun verset dans le Nouveau Testament où Paul dit « j'ai senti ». Vous l'avez, vous, le verset? Paul qui dit « je sens ». Ou Paul qui dit « j'ai la paix ». Pour moi, je crois. La compassion. Eh oui, j'essaie de me retenir, mais ça sort quand même.
Je connais.
La paix, je sens. Il me semble trop d'émotions. Que je sente ou pas, la foi, c'est une réalité. La foi, c'est le monde de Dieu. C'est les principes de Dieu. J'ai marqué ça dans mes notes. Je crois que ça va s'afficher. Quand je suis dopé à l'émotion, parce que ça devient un dopage dans les milieux chrétiens, je suis dopé, je dois sentir. Le culte était bon, j'ai senti. J'ai moins senti, c'était moins bon. Oh là, Will, il nous fait un truc. Oh, vous avez vu quoi? Il est fort, hein? Mmh. Ah, j'ai des frissons, quel culte. Oh! Mais même si j'étais en prison, sur un sol froid, sec, comme l'a été l'apôtre Paul, comme l'a été l'apôtre Pierre, ce n'est pas ce que je sens. Tu crois, toi, qu'ils étaient contents d'être là-bas en prison? Tu crois que Paul, quand il s'est fait lapider sur les marches du palais d'Hérode, il a dit « gloire à Dieu » Tu crois que Jésus, dans le jardin de Gethsémané, quand il sue du sang et que la Bible dit qu'il a angoissé jusqu'à la mort, il a la paix? Jamais la paix n'est un signe dans la parole de Dieu. Personne ne dit « j'ai la paix ». Nous, on le dit tout le temps. Et alors le pire, c'est « j'ai à cœur ». La seule fois, accroche-toi, la seule fois où la Bible parle du « j'ai à cœur », c'est dans Galates, au chapitre 5, je crois, 5 versets premiers ou dans ces eaux-là. Et Paul dit « c'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, les adultères, les mauvaises pensées ». Hi ! Arrête d'avoir à cœur. Dis à la personne à côté de toi, arrête d'avoir à cœur. La foi amène le royaume de Dieu. Le à cœur, il amène rien du tout. Il amène des déceptions. Le je sens que, peut-être que ça va marcher, mais il y a beaucoup de déceptions qui sont rattachées au fait que tu as senti. Arrête de sentir, crois ce que Dieu dit. Point. Amen. C'est ça qui compte. Quand je suis dopé à l'émotion, je cultive une foi émotionnelle et circonstancielle. J'ai la foi quand je ressens. J'ai la foi quand il y a quatre prophètes qui ont confirmé. J'ai la foi quand j'ai eu le frisson. Heureusement qu'il y avait Wilfried. Mais Wilfried, il ne vit pas avec moi. Bon, Lydie, elle, ça va, elle peut se... Mais nous, non. Déménage.
Je sens.
Je veux te dire quelque chose de la part du Seigneur cet après-midi. Vous avez vu, je dis cet après-midi parce que Romaric, il dit toujours ce matin. Ça, c'est une parenthèse dans le message Seigneur qui comprenne. 16h, c'est pas le matin, frère. Et même des fois, il dit ce après-midi. Mais tu sens qu'il a envie de dire matin quand même. Ça, c'est une parenthèse, que Dieu le bénisse. Voici une vérité, qu'il fasse beau ou pas, que ce soit facile ou pas. Que les circonstances soient alignées ou pas, que les planètes soient toutes alignées ou pas. La seule vérité, c'est que l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23, déclare « Tout est possible à celui qui croit ». Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la vérité de la parole de Dieu ? Tout est possible à celui qui croit. Autre chose, la foi n'est pas méritoire. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien exceptionnel que tu as la foi. Je vais même te dire un secret. Je te dis, je ne le dis pas pour toi, je te le dis pour moi. Je me confesse, ça me fait du bien. Des fois, ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, mais vous priez, et à un moment donné, vous dites, c'est bon, je crois que Dieu m'a exaucé. Je sens que Dieu m'a exaucé. En fait, ça, c'est pas que Dieu t'a exaucé, c'est que toi, ça y est, tu as commencé à croire.
Ouais. Amen.
Souvent, tu pries pas pour Dieu, pour toi, pour te convaincre toi-même.
Ouais.
Eh oui, parce que tu es un être étrange. Et je suis comme toi. Alors des fois, ça part en une heure, deux heures, des fois, ça prend des jeûnes. Des fois, des dizaines de jeûnes. Qui ne sont pas pour Dieu, ils sont pour te convaincre, toi, d'avoir la foi. Et là, tu as tellement prié à un moment donné, tu dis, c'est bon, je l'ai. Mais en fait, peut-être que tu aurais pu l'avoir une seconde. C'est une question de foi. La foi n'est pas méritoire. En fait, la foi, elle est connectée à la grâce. C'est parce que Jésus est mort pour toi que tu peux avoir la foi juste comme un grain de moutarde et être exaucé. C'est parce que Jésus est mort à la croix et qu'il a dit tout est accompli, même quand tu es à la ramasse, eh bien tout est accompli quand même et tu peux activer la foi. Je vais même aller plus loin. Il y a des non-croyants qui activent la foi sans le savoir. Parce qu'ils pratiquent des versets de la parole de Dieu et bim, ils sont bénis. Eux, ils croient que c'est leur main qui leur a donné ces choses. Mais il y a tellement de choses qui sont cachées dans la foi simple, la foi qui est... Moi, j'aime la foi qui est petite. Seigneur, j'ai peu de foi, mais je crois. Amen. Seigneur, c'est dur en ce moment. Même des fois, Seigneur, j'arrive pas trop à prier, mais je crois. Seigneur, j'ai du mal à lire ta Bible, mais ce verset-là, je crois. C'est ma réalité. La foi, c'est la réalité. C'est ma réalité. Alors c'est quoi la foi? Juste rapidement, rappelez-vous, la foi c'est la réalité dans laquelle je crois. La foi c'est ma réalité, donc c'est ce qui définit tout, mes paroles, mes actes, ma paix, mes décisions. Je vous ai dit, si tu crois vraiment ce verset de Jésus qui dit « je ne perds jamais personne », alors tu ne perds jamais ta paix. Parce que ça veut dire que, En prison, il y a Jésus. Dans les honneurs, il y a Jésus. Même quand toi tu dis « Seigneur, j'en peux plus », il y a Jésus. Ça change tout. La foi, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, je vais aller rapidement. C'est un raccourci, c'est un accélérateur, c'est une porte. La foi, c'est le raccourci. Quand tu fais beaucoup d'efforts, quand tu as mis beaucoup d'énergie, quand le temps passe, quand tu as beaucoup prié, quand tu as jeûné, à un moment donné, tu as la foi, puis il y a une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui n'existait pas. C'est le raccourci divin. Quand je suis convaincu, je n'ai pas besoin de me convaincre. J'ai réfléchi pour dire ça. Vous savez, ça, ce n'est pas la Bible, mais c'est un témoignage. Je pense que Pasteur Omaric pourra aussi aller dans ce sens-là. J'ai eu la chance de côtoyer vraiment des hommes de Dieu, vraiment. Des hommes de Dieu dans ma vie. Et certains qui ont écrit des livres, qui ont des ministères vraiment incroyables. J'ai toujours halluciné. Parce que j'ai souvent constaté que c'était des hommes qui priaient court. Il y a un ministère d'un homme qui s'appelle Randy Clark, par exemple. C'est un des plus grands ministères de guérison aujourd'hui. Le gars, quand il prie, il dit « Je déclare la guérison. » Toi, tu es là. Tu ne veux pas en dire plus, quand même ? Comme tu es guéri. Alors après, on peut faire une autre version. « Oh Seigneur du ciel et de la terre, je t'en conjure. » En fait, là, tu essaies de te convaincre. « Je t'en conjure, tu es là, amen, amen, amen. Merci, 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 je t'en prie. » Et le gars n'est pas guéri. Il y a une efficacité qui est connectée à la foi qu'on doit retrouver. Pourquoi Jésus dit, tu déclares à cette montagne, tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer parce que tu sais qu'elle va se faire. Tu n'as pas besoin d'en rajouter, en fait. Boum, elle se jette dans la mer. La foi, c'est une porte. Quand je suis convaincu de la puissance de Dieu, Dieu est convaincu d'agir dans ma vie. Les amis, je vais répéter ça. Quand je suis convaincu de la puissance de Dieu, Dieu est convaincu d'agir dans ta vie. Dis à la personne à côté de toi, est-ce que tu es convaincu ?
Je suis convaincu. Est-ce que tu es convaincu ?
La foi me donne accès aux fruits en toute saison. Raconte pas ton témoignage. Ça, c'est après. Non, tu dis une parole toute courte, le gars, il parle pendant 10 minutes. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est la chair. Tu en rajoutes. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du malin. La foi me donne accès aux fruits en toute saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ?
Amen.
La foi, dis à la personne à côté de toi, la foi te donne accès aux fruits en toute saison.
La foi te donne accès à toi dans toute saison.
Le fruit en toute saison. Et je vais lire pour vous un texte qui est hallucinant. Vous l'avez lu, vous le connaissez, mais tu te dis pourquoi Jésus fait ça en fait ? Justement pour t'expliquer à toi, aujourd'hui à Toulon, en 2023, que la foi... Ah, mon fils arrive enfin pour m'écouter, que c'est beau. Vous êtes prêts ? Allez, on lit ensemble dans Marc. Marc, chapitre 11. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouvait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Quoi de plus logique ? Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et les disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier qui avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, encore la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce texte-là, c'est un texte qui parle de la foi. Jésus est en train d'enseigner la foi à ses disciples. Jésus est en train de leur dire quelque chose de simple. Regardez ça. Jésus veut manger des figues sur un figuier qui n'est pas dans la saison des figues. Donc, il n'en trouve pas. Normal. Mais en fait, il veut nous dire quoi ? Il veut nous dire que celui qui a la foi, il trouve des fruits, même dans les saisons où tu ne dois pas trouver de fruits. Celui qui a la foi, il est capable de ramasser des figues quand ce n'est pas la saison des figues. Celui qui a la foi, il ne vit pas en fonction des saisons, il vit en fonction du royaume de Dieu. Wow. Il y a quelqu'un qui est là ? Et ça va même plus loin, parce que Jésus va maudire le figuier. En gros, Jésus nous dit une chose. Tu peux essayer d'être chrétien en marchant dans la malédiction, Et tu vas être soumis à la malédiction qu'il y a sur le monde, sur la mort qui frappe le monde. Ce sera ta réalité. Alors que pourtant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, enfant de la vie, tu as la capacité de cueillir les fruits hors saison éternels que Dieu a prévu pour toi. Alors je déclare dans le nom de Jésus que nous allons prendre notre petit grain de moutarde. Est-ce qu'il y a un grain de moutarde ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu de foi? Parce que ce peu de foi, il est capable de t'amener à vivre et à cultiver, à recevoir du fruit en toute saison. C'est peut-être pas la saison la plus facile de ta vie. Peut-être que c'est l'hiver en ce moment dans ta vie. Peut-être que même tu as l'impression que tout ce que Dieu te dit, c'est l'inverse qui se passe. Je veux te dire une chose. Sors dépoussière ton grain de foi et dis, Seigneur, je crois à la réalité du royaume de Dieu. Je crois à tes promesses, elles sont oui, amen. Et il est temps de récolter le fruit qui t'attend.
Amen.
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 Le fruit hors saison est connecté à la foi. Moi, je veux ça. La foi, autre point, la foi me donne la victoire. Je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais ce verset, franchement, prenez 5 minutes et méditez-le. Commencez à y croire, ça va changer votre vie. C'est pas mal de commencer à croire la Bible. Hein?
C'est bien.
Bon, regardez, ça va vous éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Prenez en toutes circonstances, Éphésiens 6, 16. Prenez en toutes circonstances, ça veut dire tout le temps, quoi, hein? Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tout, dis avec moi tout.
Tout,
tous les traits enflammés du malin. Le diable arrive avec le doute, avec les attaques, avec les persécutions, avec les maladies, avec tout ce qui peut envoyer de traits enflammés contre toi, et toi tu sors le bouclier de la foi, boum, et tout s'éteint.
Amen.
Il est temps de redevenir efficace.
Amen.
C'est intolérable. Vous savez, la Bible dit que le diable vient pour arracher, dérober, égorger, dérober et détruire. D'accord ? Vous connaissez ce texte-là. Mais ce texte-là, Jésus le dit dans la parabole du bon berger. Si le diable passe son temps dans ta vie à dérober, à égorger et à détruire, ça veut dire que le bon berger n'est pas à la porte et qu'il ne garde pas ta vie. Parce que le diable arrache, égorge, vole quand il a le droit d'entrer. Il est temps de ressortir le petit grain de sénévé et de lui dire, écoute mon ami, écoute mon gars là, j'ai pas une grande foi, je suis pas le plus grand prieur, je suis pas le chrétien le plus exceptionnel, mais je crois.
Amen.
Je crois qu'il garde mon départ et mon arrivée. Je crois qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois qu'il a tout accompli à la croix. C'est fini. C'est fini. Je crois. Ma réalité, la foi, on l'a lu ensemble, la foi c'est une réalité, c'est une ferme confiance, une manière de posséder par avance, c'est être absolument certain. La foi me donne la victoire, la foi me rend solide et j'arrête là. La foi me rend solide. Dernier verset, Romains 15, verset 13. C'est Paul qui prie. Vous savez, Paul écrit l'Épître aux Romains, et l'Épître aux Romains c'est vraiment la loi et la grâce. Épître aux Romains, c'est de dire, il y a en moi deux lois qui luttent constamment, la loi de la mort, la loi de la vie. Le bien que je veux faire, j'arrive pas. Des fois, c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Épître aux Romains, c'est ça, c'est la grâce que Paul est en train de décrire. Et là, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix. Ça, c'est bien ça. Franchement, si tu es rempli de joie et de paix, qu'est-ce qui peut t'arriver? Si tu as la joie au max et la paix au max, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qui peut te déstabiliser? Tu vois une montagne, tu es content. Tu reçois une lettre des impôts, tu as la paix. Mauvais diagnostic du docteur, tu es content. Porte qui se ferme, tu as la paix. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Paul dit ceci. Je prie qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ah bon? Pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand je suis dans la foi, mon petit grain là, celui-là, il ouvre une porte spirituelle et je suis sous une douche de paix, d'une douche de joie, qui fait que je deviens solide. Et je prie, je prie, je prie. Frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à être solide. On ne peut pas aimer Jésus le lundi et être rétrograde le mardi. On ne peut pas être des champions le mercredi et des losers le jeudi. Non ? Parce que c'est une question de foi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, vous savez, le Saint-Esprit, Paul dit ça dans 1 Corinthiens 6, l'Esprit c'est la vie et la paix. Donc une des fonctions du Saint-Esprit c'est aussi de libérer ces choses. Mais si ta compréhension du Saint-Esprit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je sens pas, eh bien tu t'affaiblis au lieu de te fortifier. Et Dieu veut que tu sois fort. Dis à la personne à côté de toi, tu es appelé à être fort. Tu es appelé à être forte. La foi libère une dimension profonde de joie et de paix. Vous savez, l'autre jour, quand j'étais dans ma chambre et que je lisais ce texte, arrête de témoigner. Toujours la même. La femme du pasteur Romaric. Avec la mienne. On est bien, tiens. Seigneur, priez pour nous. Vous imaginez ? Bon.
On a un cœur.
Mais vous savez, quand je lisais ce verset de Jean 16, Père, je te rends grâce de ce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné et que j'ai compris. Mais il y a une paix qui est descendue. Dis Seigneur, mais en fait, même ma vie chrétienne, moi je crois que c'est moi qui me tiens à flot. Mais en vrai, c'est toi qui me garantis. Même mes exploits, c'est toi. Mes vallées, c'est avec toi. Quand j'ai lu ce verset, j'ai fermé ma Bible, j'avais le sourire. Pourquoi ? Ça, c'est la foi. C'est la foi. Et on a besoin juste de le reprendre. Ne considère pas qui tu es. Considère qui il est. Prends ton grain de foi. Je sais que parfois, c'est... Il y a tellement de choses dans nos vies, les montagnes sont tellement grandes, il y a tellement de choses. Mais Jésus a pris l'exemple de la montagne parce que justement, il faut qu'il y ait des grandes choses pour qu'elles soient ôtées. Il y aura beaucoup d'opposition, mais avec un grain de foi, ça sort. Je termine par ça. Tu as suffisamment de foi. Je t'assure, tu as suffisamment de foi. Il faut juste la dépoussiérer, la ranimer, la cultiver. Je crois qu'il faut qu'on revienne où tout est accompli. Tu regardes tes enfants non chrétiens, tout est accompli.
Amen.
Amen. Tu regardes ta maladie, tout est accompli. Tu regardes tes défis, peut-être professionnel, cherche du boulot, tout est accompli. Tu regardes ton environnement qui est peut-être difficile, tout est accompli. C'est ma réalité, c'est ma vérité, c'est dans ce monde-là que j'évolue. Tout est accompli et il faut qu'on revienne à ça. Ne tombez pas dans le piège dans lequel je suis tombé de devenir compliqué. Oui, tout est accompli, sauf si... Oui, mais. Arrête les oui, mais. Les promesses sont oui et amen. Il n'y a pas marqué oui, mais. Non ? À moins que vous ayez notre version biblique, il n'y a pas marqué je suis l'alpha et l'oméga, le oui, mais. Ah, d'accord. Oui et amen. La victoire, Dieu l'a donnée à son peuple. Elle est à nous. Les amis, la victoire, Dieu nous l'a donnée. Tu as le droit d'être content quand même. La victoire, Dieu te l'a donnée dans toutes les saisons de ta vie, dans toutes les dimensions. C'est la raison pour laquelle les vagues ne peuvent pas te submerger. Parce que même si tu coules, tu sors ton petit grain de foi et il y a une main qui se tend et qui t'attrape. Ça, c'est Jésus, ça. Vous savez, moi, j'aime Jésus parce qu'il est capable de dire à Pierre, tu as manqué de foi, mais il a quand même secouru. Si ça ne s'appelle pas la grâce... Nous, on croit toujours que c'est méritant. Et ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le cri des circonstances ne pourra jamais éteindre la réalité de Christ dans ma vie. Jamais. Alors, j'aimerais juste prier avec vous cet après-midi. Et j'invite le groupe de louanges à venir. On va prendre juste un instant. Je ne sais même pas quelle heure il est. Un peu de temps, peut-être. Ça va, ouais, on a un peu de temps. Ça va, Romaric, il m'a pas dit stop. J'ai vu ta main bouger les montagnes, mais très très doux.
Ça marche.
Et on va dépoussiérer notre peu de foi. Peut-être qu'il y a une montagne qui se dresse aujourd'hui entre ce que Dieu t'a dit et qui tu es aujourd'hui, alors on va lui dire ôte-toi de là. Peut-être que tu vas me dire, mais moi je ne le trouve plus, mon grain de foi. Si tu ne trouves plus ton grain de foi, on va prier pour toi. Parce que même si tu as l'impression qu'il est infime, il est là. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. En fait, la version grecque dit, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et quand tu vas revenir, tu seras une source de bénédiction pour tes frères. Même un peu, même dans une saison noire, ta foi ne disparaît pas. Elle est là, il en reste un peu. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qui a vu dans sa famille quelqu'un abandonner le chemin du Seigneur, arrête de le regarder comme étant loin de Dieu. Je te le dis, la foi ne disparaît jamais. Des fois, elle est petite. Des fois, c'est un lumignon qui fume. Dieu a dit, je n'éteins pas le lumignon qui fume. Je ne brise pas le roseau qui est cassé. Peut-être qu'il y a des promesses, tu dis, mais ce n'est pas possible. Alors, tu es un bon candidat à la foi. En fait, la foi, tu n'en as pas besoin quand c'est possible, d'ailleurs, en parlant. Si tu me dis, ah, j'ai la foi pour me réveiller seul le matin à 4 heures pour prier, bon, mets un réveil, ça va aller. Pas besoin de la foi pour ça. Mais la foi, c'est justement quand il y a une montagne, elle est trop haute, elle est trop grande. Entre ma promesse et moi aujourd'hui, entre ma maladie et ce que Dieu m'a dit, entre les projets qui sont dans mon cœur et ce que je peux faire réellement, il y a une montagne. Je sors mon petit grain de foi et je dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, parce que ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. C'est la réalité. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je possède déjà. Tu possèdes déjà. Alors on ferme nos yeux, s'il vous plaît, et je veux prier avec quelqu'un. Cet après-midi, je veux prier avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui va dire, je retrouve plus ma foi en ce moment. Je la retrouve pas. J'ai besoin qu'on prie avec moi parce que je la retrouve pas. Je veux te dire que comme Jésus a prié pour Pierre, il y a un frère et une sœur qui prie avec toi. Ta foi ne disparaîtra pas. Alors si c'est ton cas, alors que les yeux sont fermés cet après-midi, et tu dis, je veux retrouver cette foi, peut-être que je ne retrouve pas. Lève la main là où tu es, je vais prier pour toi simplement. Simplement, hein, quelques mains qui se lèvent. On ne regarde pas s'il vous plaît, c'est pur, c'est profond, c'est intime avec Dieu. Ok, tu peux baisser ta main là où tu es. Je veux prier avec quelqu'un qui dit, j'ai laissé la montagne devenir ma réalité. J'ai oublié que j'avais dans ma poche de mon armure spirituelle un grain de foi qui pouvait tout changer. Je veux prier avec quelqu'un qui va dire cet après-midi, ça fait trop longtemps, ça suffit d'avoir laissé la montagne être la réalité. Oui, il n'y a pas de figues parce que ce n'est pas la saison des figues, mais ce n'est pas grave. Ta foi peut amener le fruit hors saison. Alors si c'est ton cas cet après-midi, moi je veux arrêter de contempler ma montagne. Je dis à cette montagne, toi de là cet après-midi, amen. Juste lève la main là où tu es. Ça peut être pour ta famille, pour tes enfants, pour ta maladie, pour des besoins. Je crois que dans ce lieu, il y a vraiment quelque chose qui est connecté à la maladie cet après-midi. Particulièrement, on va y aller dans quelques instants. Mais simplement là où tu es, voilà, tu peux baisser ta main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, je me réjouis par avance parce qu'il y a des boucliers qui vont sortir et il y a des traits enflammés qui vont être éteints cet après-midi. Si tu as levé la main à un des deux appels, lève-toi s'il te plaît là où tu es.